Le journal Loïc Barrière. 8 migrants retrouvés morts à bord d'un bateau au large de Lampedusa, en Italie. En Tunisie, l'UGTT dénonce l'arrestation du responsable de sa branche autoroute. Le Soudan et Israël prêts à signer un traité de paix, c'est ce qu'a annoncé le ministre israélien des Affaires étrangères après une visite à Khartoum. Nous ferons le point sur le plan du gouvernement pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. Entretien avec Kaltoum Gashi, coprésidente du MRAP. Enfin, le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire a fortement augmenté en France. Nous écouterons la responsable des Restos du Cœur à Fontenay-sous-Bois, Huguette Fouché. Les gardes-côtes italiens ont retrouvé les corps de 8 migrants, dont celui d'une femme enceinte. Ils étaient à bord d'une embarcation dans laquelle se trouvaient 42 personnes qui, elles, ont survécu à la traversée de la Méditerranée. Ce bilan a été donné par le maire de Lampedusa. En Tunisie, la réaction du chef de l'UGTT, Noureddine Tabboubi, après l'interpellation mardi de Anis Kaabi, le responsable du syndicat pour la branche autoroute. Selon lui, le président Kais Saied s'en prend au syndicat pour détourner l'attention après la forte abstention aux législatives et l'échec de sa politique économique et sociale. Anis Kaabi a été arrêté après une grève au péage autoroutier. Israël annonce un prochain traité de paix avec le Soudan, une annonce faite par le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, après une visite officielle hier à Khartoum. Le ministère soudanais des Affaires étrangères confirme un accord pour avancer vers une normalisation des relations entre les deux pays. Alors que le pape François entame une visite au Soudan du Sud, une attaque a fait 21 morts hier dans le pays. L'attaque par un groupe armé a visé des civils. Le pape est venu promouvoir la paix et la réconciliation dans ce pays déchiré par la guerre et touché par la pauvreté. Cette semaine, le gouvernement français a annoncé un plan pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, plan élaboré en concertation avec les associations de lutte contre le racisme. Entretien avec la coprésidente du MRAP, Kaltoum Gashi.
C'est un plan qui est ambitieux et qui, tout en reprenant quelques idées du passé, essaie de les rendre très concrètes avec des mesures pragmatiques et une volonté de suivi tous les 6 mois pour que ce plan porte véritablement ses fruits. On a un déploiement de mesures à tous les niveaux avec 5 grands axes qui sont privilégiés. Le premier axe consiste à nommer la réalité du racisme, de l'antisémitisme et des discriminations. Le deuxième réside dans la nécessité de mesurer les phénomènes de racisme, d'antisémitisme et de discrimination. On a également un troisième axe sur mieux éduquer, mieux former. Un quatrième, sanctionner les auteurs. Et puis un dernier axe fondamental, accompagner les victimes.
Alors, il s'agit d'un plan interministériel. Cela signifie donc que ce sont tous les domaines de la vie qui sont concernés, l'éducation, le logement, par exemple.
C'est exactement ça. Il y a une association étroite entre les différents ministères pour que les mesures qui sont très pluridisciplinaires puissent être le plus efficace possible. Ça associe bien évidemment le ministre du Travail pour les discriminations liées au travail, et on sait qu'elles sont encore nombreuses. Ça associe, comme vous l'avez dit, le ministre du Logement pour toutes les questions de discrimination au logement, le ministre de la Justice bien évidemment pour que les sanctions, notamment pénales, puissent être renforcées. Et à cet égard, le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, que je co-préside, a contribué à faire adopter une mesure qui nous paraissait fondamentale, c'est d'aggraver les sanctions lorsque l'auteur d'une injure ou d'une diffamation raciste à caractère privé est une personne chargée d'une mission de service public, investie d'une telle mission, et notamment les forces de l'ordre, puisque jusqu'à présent, il s'agissait d'une simple contravention.
Est-ce qu'il faut justement mieux former les policiers à la lutte contre le racisme ?
Il faut former tout le monde, beaucoup mieux que jusqu'à présent, à la lutte contre le racisme. Les personnels de l'éducation nationale, les forces de l'ordre aussi, les enquêteurs qui prennent les plaintes. On sait qu'en matière de violence conjugale, de gros efforts ont été faits avec une volonté de spécialiser ceux qui interviennent dans toute la chaîne. C'est le cas également en matière de lutte contre le racisme, d'antisémitisme et de lutte contre les discriminations. Et il faut effectivement mieux former tous les personnels, et en particulier les personnels de police, pour que les plaintes soient plus souvent prises, qu'elles soient peut-être mieux prises avec un travail de qualification qui doit se faire, même si ce travail de qualification juridique n'est pas définitif et peut évidemment être revu par la suite. Mais effectivement, mieux former est indispensable.
Est-ce qu'aujourd'hui, porter plainte pour discrimination est compliqué quand on n'a pas la preuve de ces discriminations ?
Oui, c'est extrêmement compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que rapporter la preuve d'une discrimination est encore un peu mission impossible. Alors, il y a des procédés qui permettent d'alléger un peu la charge de la preuve, et je pense notamment au testing, mais ça demeure insuffisant. Et c'est vrai qu'une infraction qui n'est pas démontrée, qui n'est pas prouvée pour la justice, elle n'existe pas. Donc, il est très compliqué de déposer une plainte sans preuve, et c'est vraiment le parcours du combattant pour les victimes de discrimination. Là-dessus aussi, il faut œuvrer pour que à la fois cette preuve soit facilitée, qu'on puisse élargir le système des testings, pour qu'on puisse élargir la pratique des CV anonymes et qu'on puisse traquer les auteurs de discrimination qui demeurent trop nombreux.
Est-ce que les réseaux sociaux restent toujours une zone de non-droit sur la question du racisme et des discriminations ?
Alors pendant longtemps, effectivement, il y a une certaine impunité qui a régné sur les réseaux sociaux, et les auteurs derrière leur écran se sentaient tout puissants. C'est tout de même en train de changer, hein. Il y a des efforts qui sont faits pour déterminer qui se cache derrière les contenus haineux, quitte à associer les grands réseaux sociaux qui, de gré ou de force, j'allais dire, contribuent à la lutte contre le racisme sur les réseaux. On a vu lors du Covid à quel point la haine anti-asiatique avait pu proliférer, et un travail est véritablement entrepris pour qu'on puisse trouver, poursuivre et sanctionner les auteurs de ces infractions.
Alors, c'est la première fois que les Tziganes sont nommés dans un plan contre le racisme. C'est important ?
C'est extrêmement important, puisque il est vrai que c'est une population qui subit de plein fouet le racisme, les discriminations, et qui a été, il faut le dire, un peu mise de côté. Donc, c'était tout à fait important de faire en sorte que l'anti-tziganisme puisse aussi trouver sa place dans ce plan gouvernemental de grande envergure. Et il faut maintenant que les mesures que ce plan prévoit puissent être véritablement mises en pratique et surtout donner des résultats.
Alors, c'est dès l'enfance que des stéréotypes peuvent s'installer, c'est ce qu'a déclaré Elisabeth Borne lors de la présentation de ce plan. L'État peut faire davantage pour éduquer les jeunes à la lutte contre le racisme et contre les discriminations ?
Oui, tout à fait. Il faut que s'inscrivent dans les programmes scolaires les valeurs qui font la République. Il ne faut pas simplement qu'on les lise sur les frontons des édifices. Il faut aussi que ça puisse s'incarner à l'école, que ça puisse être expliqué dès le plus jeune âge, pour que la lutte contre la haine dans toutes ses formes puisse se déployer, et que dès le plus jeune âge, on puisse être sensibiliser à ce qu'est la fraternité, à ce qui nous rassemble. Non, le MRAB va dans les écoles pour décrire l'association et les valeurs qu'il apporte, l'universalisme de notre combat contre toutes les formes de racisme. Le MRAB, le sigle en lui-même est révélateur de ce que nous luttons contre le racisme et nous œuvrons, nous tentons d'œuvrer du mieux possible pour l'amitié entre les peuples.
La coprésidente du MRAP, Kaltoum Gashi. Des rapporteurs spéciaux de l'ONU critiquent la lenteur de la justice au Liban dans l'enquête concernant l'assassinat du militant et intellectuel libanais Lokman Slim, connu pour ses positions hostiles au Hezbollah. Selon ses responsables de l'ONU, 2 ans après, aucun responsable de son assassinat n'a été identifié et il y a peu de chances que l'enquête aboutisse dans un avenir proche. Lokman Slim a été assassiné le 4 février 2021 dans le sud du Liban. Charles Michel promet de soutenir l'Ukraine dans son ambition d'adhérer à l'Union européenne. Le président du Conseil européen s'est rendu à Kiev ce vendredi pour participer à un sommet avec plusieurs hauts responsables européens. La précarité augmente en France sur fond d'inflation. Les associations alertent sur l'explosion du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire. C'est le cas au resto du cœur de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. On écoute Huguette Fouché, responsable de ce centre.
C'est lié à l'inflation, mais même avant l'inflation, déjà, on a toute une population qui est en grande difficulté. Pourquoi une grande difficulté? Bon, il y a des gens qui perdent leur travail, mais d'autres familles, tout simplement, la seule personne qui était active par l'âge décède et la personne restante, qui est très souvent la femme, se retrouve sans moyens. Ou avec une toute petite retraite qui ne lui permet pas de suffire pour exister. Donc c'est ce type de population que nous avons.
Est-ce que le profil des personnes qui viennent au Resto du Cœur a changé?
Non, nous à Fontenay, nous ne recevons pas d'étudiants. Nous n'avons pas de demande de jeunes travailleurs ou de travailleurs à temps partiel. C'est pas qu'on les refuse, hein, loin de là. Mais apparemment, ils arrivent à fonctionner autrement. Bon, les étudiants, il y a les aides par les facs parfois. Je ne sais pas si c'est lié au transport. Nous avons quand même pourtant de bons transports, RER et métro. Mais nous n'avons pas de demande à ce niveau-là.
Vous pouvez bien entendu les accueillir, mais eux ne viennent pas chez vous.
Après, il faut que ça corresponde aux horaires que nous avons. Donc c'est certainement ça qui doit un peu les pénaliser. Mais il y a d'autres restaurants dans notre département, notamment un à Villiers, qui assure un nocturne. Et qui assure aussi le samedi matin.
Vous nous dites que le nombre de bénéficiaires a beaucoup augmenté.
Oui, tout à fait. Il y a 2 ans, nous donnions à la semaine 3 500 repas, ce qu'on appelle repas, aide pour faire des repas. Et actuellement, nous sommes à plus de 5 000 par semaine.
Vous avez les moyens de faire face à cette demande qui explose?
Oui, grâce au Resto du Cœur, hein, grâce aux aides nationales et internationales. Et nous avons un principe de fonctionnement avec un grand centre commercial qui est la marque Auchan, où tous les matins, de jour de distribution, nous allons récupérer les invendus en fruits et légumes. Uniquement, on prend parce qu'on ne peut pas prendre de viande et tout. Nous ne sommes pas équipés en frigo. Nous sommes équipés en congélateur. Donc la congélation, tout ce qui est en congélation, c'est le national qui nous le fournit. Ça vient d'un entrepôt de Rungis spécial pour les Restos du Cœur. Et donc nous répondons assez bien aux besoins des gens. Nous faisons des collectes aussi. Hein. Là, nous venons de faire toute une série de collectes dans des écoles. Donc on fait une liste de ce que l'on souhaite. Et donc la majorité de ce que l'on demande arrive. Alors c'est notamment tout ce qui est conserve que l'on demande, particulièrement des sardines, des maquereaux, du thon bien sûr, parce que nous avons toute une population qui est maghrébine ou africaine et qui donc ne mange pas de viande autre que de la viande halal, donc on compense par cela. La mission des bénévoles, c'est la distribution et l'accompagnement. Et là, c'est les inscriptions, l'accompagnement. La ramasse, c'est le matin, ça se passe à 7h30 et ça dure 1 heure. Et après, on trie tout ce qu'on a récupéré à Auchan, parce qu'il y a des déclarations derrière, bien entendu. Auchan ne nous les donne pas gratuitement, ils défiscalisent tout ce que l'on prend. Donc, on a trié pour que les produits soient corrects, comme si c'était vous alliez fermer les courses pour vous-même. Et après, il y a une préparation, on va dire, de 1 heure à 1 heure et demie. Donc ça, nous le faisons le matin. Et l'après-midi, à partir de 13h jusqu'à 16h, nous faisons de la distribution. Donc nous recevons les familles.
Est-ce que vous avez assez de bénévoles aujourd'hui ?
Oui, nous sommes une 60aine de bénévoles à Fontenay.
La solidarité reste bien vive, c'est ce que vous constatez aussi ?
Ah oui, oui, c'est très agréable. Quand les vacances arrivent, on a des jeunes qui viennent nous aider. Et quand on fait des opérations de collecte dans des écoles, c'est une excellente sensibilisation auprès des jeunes, hein, de la jeunesse, pour comprendre ce que la vie demande. Pour l'existence. Et c'est une belle sensibilisation à la solidarité.
Et les personnes qui sont aidées par les Restos du Cœur peuvent aussi être bénévoles et
oui.
Aider les autres, ça c'est important.
Oui, 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 nous en avons. Ces gens qui sont dans ce créneau-là, bénévoles et bénéficiaires, très souvent, c'est parce qu'ils sont en attente d'avoir des papiers. Hein. Ils n'ont pas fait leurs 5 années en France pour pouvoir régulariser leur situation. Donc ils ont besoin de s'occuper, c'est normal. Et ils ont besoin de rendre le service qu'on leur donne, en fait. Ils veulent être solidaires, eux aussi.
Vous voyez beaucoup de personnes qui sont arrivées récemment en France et qui ont choisi d'aider les autres et d'être donc bénévoles pour les Restos du Cœur.
C'est particulièrement les pays d'Afrique qui font ces démarches-là. Par exemple, nous avons eu depuis 1 an, malheureusement pour eux, un gros arrivage d'Ukrainiens. Là, on n'a aucun bénévole à de proposer chez eux.
Aujourd'hui, est-ce que vous constatez une évolution des dons liés à la crise économique ?
Quand on fait une collecte, c'est magnifique la générosité des gens. Ils nous disent, on n'a pas le temps, on travaille, on n'a pas le temps. Heureusement que vous êtes là, comme ça on peut donner quelque chose pour aider. Donc la population française est toujours généreuse, et pas que française d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des Français qui nous donnent. Et là, par exemple, pour la collecte nationale, nous allons avoisiner certainement les 10 tonnes de collecte.
Huguette Fouché, responsable des Restos du Cœur de Fontenay-sous-Bois, elle répondait à François-Xavier de Calonne. Le Conseil constitutionnel a annulé l'élection en juin 2022 du député Meyer Habib dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Selon la haute juridiction, les soutiens du député se sont livrés à des irrégularités et des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Un nouveau scrutin doit donc être organisé dans les 3 mois. 1 million de doses d'amoxicilline bientôt livrées dans les pharmacies françaises, c'est ce qu'a annoncé Roland Lescure, le ministre de l'Industrie. Selon lui, la France est en train de sortir de la crise liée aux pénuries de certains médicaments. Enfin, la mort du couturier Paco Rabanne. Il était âgé de 88 ans. Il avait présenté sa première collection dans les années 60. Avant de se lancer avec succès dans la parfumerie, il est décédé en Bretagne. À 19h et 23h, pluriel, avec Dienaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, conseillère régionale d'Île-de-France et élue des Mureaux. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute de Radio Orient.